Je suis en compagnie de Marielle Massé. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'EHESS. Nous parlons de votre nouveau livre, Une pluie d'oiseaux, paru aux éditions José Corti. Ma première question, pour comprendre l'enjeu de votre livre, de quoi il s'agit, dans quoi il s'inscrit, c'est ce long paragraphe, page 179, que je vais vous lire et que je vais vous demander de commenter. La réalité d'une relation au monde vivant, c'est une affaire de sensibilité en effet, de qualité attentionnelle, de disponibilité à sentir, à éprouver et s'éprouver parmi. Or, les affects, ou les dispositions typiques de l'anthropocène, ce sont justement la négligence, l'inattention, par conséquent aussi l'anesthésie, la désinhibition, l'incapacité à être durablement troublé ou à se savoir responsable. L'incapacité à être pour de bon connecté à la réalité matérielle de nos vies, aux autres vies, mais aussi aux infrastructures sur lesquelles repose la possibilité de nos existences dans ces commodités modernes. L'incapacité à être relié en conscience à tout ce dont nous vivons, à tout ce dont nous dépendons concrètement et à tout ce que nous produisons sans vouloir le savoir. On parle d'ailleurs aujourd'hui de la crise environnementale comme d'une crise de la sensibilité. Ceci pourrait être le prélude, le préalable à une pluie d'oiseaux, Marielle Massé.
Oui, alors les lignes là que vous venez de lire, elles sont... C'est comme si je n'y parlais vraiment pas toute seule, puisqu'elles sont solidaires de beaucoup d'autres travaux. Et Bruno Latour vient de mourir. On pourrait dire que les travaux dont je parle, ce sont tous ceux qui ont été ouverts, favorisés, rendus possibles, encouragés par son travail à lui, et que ses réflexions sur les attachements, la sensibilité, les dépendances, les pelotes de liens et de connexions dans lesquelles nous sommes prises. C'est un thème qui est travaillé par beaucoup d'autres que moi, hein, Baptiste Morisot, Anastasia Martin, Mathieu Dupérex, auquel je pensais en réentendant ces lignes-là. Voilà, on est tous pris dans un même effort qui est celui de tenter par la pensée, par l'écriture, par la transmission, de placer sous les yeux, sous nos propres yeux, sous les yeux des autres, sous les yeux de qui pourra nous lire, de placer sous nos yeux à tous une espèce de carte de la complexité, de la robustesse de tous ces liens, certains favorisant la vie et d'autres au contraire l'empêchant, l'abîmant, la noyant dans plein d'espaces. Donc on essaye d'insister sur le fait qu'une vie, c'est toujours une sorte de carrefour de toutes sortes de fils, de dépendances, les choses dont on dépend, les choses qui dépendent de nous. Et c'est de cette ontologie relationnelle, disons, qu'on est très très nombreux à essayer de faire le récit. Enfin, que l'on cherche à accompagner par l'image, par la réflexion, par le poème. Et l'idée d'une crise de la sensibilité, elle est débattable, mais en tout cas, elle était importante à placer ici dans ce travail, parce que les oiseaux ne sont pas des voisins comme les autres. Enfin, aucun voisin n'est un voisin comme les autres. Mais les oiseaux ont cette puissance singulière de nous toucher, de nous capter, de nous émerveiller, de nous happer, de nous passionner, de nous intéresser, qui fait que dans la plupart des cultures humaines, il y a une proximité, un intérêt, une place particulière des oiseaux dans les conversations des hommes, et que donc il y a quelque chose dans l'intensité affective qui vient avec les oiseaux et qui vient encore plus avec des oiseaux dont on mesure la vulnérabilité, que l'on voit tomber, hein, c'est le sens du titre, une pluie d'oiseaux. Il y a quelque chose qui peut forcer des issues hors de cette crise de la sensibilité. Il est plus facile, disons, d'être ému par le sort des oiseaux qu'il ne l'est d'être ému par le sort des lombrics, et pourtant c'est la même chose, et d'ailleurs les deux sont liés, enfin. Mais il y a donc une place très particulière des oiseaux dans nos propres, dans nos rebranchements, disons, au monde vivant.
Ce paragraphe que je viens de lire continue ainsi, et il va permettre d'accompagner votre propos, puisque vous avez déjà un peu défloré ce deuxième paragraphe qui vient juste après. Je vous lis. Mais justement, encore une fois, les oiseaux ne sont pas des voisins comme les autres, c'est ce que vous venez de dire. Évidemment, aucun être vivant n'est un voisin comme les autres. En chacun, la vie se phrase d'une certaine manière et le fait entendre. Une intensité nous lie à eux, à leur chant, à l'aura de leur apparition et de leur disparition, même pour les plus déliés d'entre nous. Les oiseaux touchent, nous touchent des gens très différents, qui n'ont pas même besoin de les connaître ou de les reconnaître pour en être affectés. De beaucoup de manières et à beaucoup d'oreilles, les oiseaux signifient. Un ciel rempli d'oiseaux, une forêt ou une ville où ils font irruption ne sont pas éprouvés comme des espaces muets, ni quant au son, comme des silences, ni quant au sens. Le confinement a été l'occasion d'en reprendre la mesure, pour le meilleur et pour le pire. Et effectivement, le confinement, pour beaucoup, a été soudain, on a entendu les oiseaux parce qu'il n'y avait plus de voiture.
Oui, alors j'essaye de commenter un peu ce moment considérable de bouleversement de l'état social, mais aussi des paysages sonores. Et en effet, j'avais remarqué qu'on en parlait beaucoup, du fait qu'on entendait les oiseaux, qu'on s'en réjouissait la plupart du temps. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir, en fait, ce retour des oiseaux dans notre oreille, parce que j'avais l'impression que c'était un peu vite dit de penser qu'on les entendait davantage. On les entendait davantage parce qu'en effet, ils n'avaient plus à chanter plus haut ou à chanter plus fort pour pouvoir se parler entre eux au-dessus du bruit des voitures ou du bruit de toutes les productions humaines. Mais ce que ça dit, un chant d'oiseau dans le paysage, c'est beaucoup plus vaste que ça. Disons, ce que les oiseaux se disent entre eux, ça ne nous regarde pas, en fait. ou pas beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est un dialogue auquel on n'a pas tout à fait droit. Mais ce que ces irruptions de chants d'oiseaux pouvaient dire dans un paysage à ce point rétréci, c'était beaucoup plus vaste, en fait, que le sentiment d'une nature qui reprenait ses droits. Parce qu'aussi bien on entendait beaucoup plus les bruits des sirènes d'ambulance. Et voilà, c'était tout le paysage sonore qui fallait prendre en compte, et pas seulement ces petites poches d'émerveillement dont les oiseaux nous faisaient cadeau.
Puis il y a un troisième paragraphe, je lis dans l'ordre. En fait, c'est aussi pour beaucoup donner à entendre votre texte, votre manière d'écrire, votre langue et votre attention au vocabulaire. C'est aussi ce vocabulaire très précis que vous employez, et je pense que vous nous apprenez à nous revocabulariser. Voici ce troisième paragraphe. Il y a un gros effort à faire, en revanche, pour dévider la pelote des liens, des dépendances, de toutes les vies enchevêtrées vers lesquelles cette émotion largement partagée pourrait retendre une corde. Un effort pour connaître, reconnaître, savoir nommer, prendre la mesure des connexions réelles, de ce dont on dépend et qu'on ne veut pas voir. On dépend aussi bien de la santé des sols que des déchets dont on les submerge, de tous ceux sur qui l'on pèse. et l'on comprend que les efforts esthétiques aient ici leur importance, participant d'un rééquipement de la sensibilité, contestant les négligences, recosmisant, autrement dit, faisant reparaître les mondes dans tous leurs constituants. Et ça pourrait être l'ambition de votre livre, mais aussi l'ambition de toutes vos recherches, depuis Style notamment.
Oui, alors là, c'est un passage qui vient de loin, donc qui a quelque chose d'un peu abstrait, lu comme ça à brûle pour point. Pour le dire d'une façon plus rapide, on pourrait dire que on demande souvent ce que peut le poème ou ce que peut la littérature, s'il peut réparer le monde, réparer les vivants, etc. Et moi, j'ai l'impression que c'est toujours lui poser une question tellement énorme qu'elle annule ou qu'elle humilie tout effort littéraire, et qu'on pourrait le dire plus modestement, en fait, un effort de pensée ou un effort d'écriture ne réparera pas le monde, ne réparera pas les gens. En revanche, ce qu'il peut réparer, c'est les liens qui nous attachent au monde, les liens qui nous attachent à des gens. C'est-à-dire que moi, l'écriture que je tente, elle est faite pour ça, en fait. Elle est faite pour retendre des fils. Dans un livre précédent, j'avais beaucoup réfléchi à ce que l'on dit ou ce que l'on veut dire quand on dit « nous », quand on dit le pronom « nous ». Je m'étais aussi arrêtée sur des zones humides autour de filets d'eau. Et l'effort, c'était toujours de consolider les attachements qui valent la peine et de délier les dépendances mortifères. Et donc, je répète beaucoup, je tourne beaucoup autour de ce vocabulaire des attachements et des liens. Pourquoi ? Parce que je crois que l'écriture, l'exercice de la parole, c'est une pratique et une pensée des liens. La phrase, pour moi, c'est un petit écosystème de liens. Et je ne suis pas une romancière, je ne suis pas une narratrice, alors je ne raconte pas d'histoire. J'essaye de ne pas raconter d'histoire aussi dans tous les sens qu'on voudra donner à cette formule. Mais l'enjeu, c'est vraiment de, avec à la fois scrupule, liberté, imagination, d'essayer de bien qualifier ces réseaux de relations qui font une vie. Et donc une phrase, c'est ça. Ça serait un petit écosystème d'attachement et de détachement à travers des outils syntaxiques qui sont comme les articulations de la pensée.
Et pour cela, vous avez besoin des poètes. Vous avez besoin de la poésie. On n'en a pas encore tout à fait véritablement parlé. Vous avez esquissé. Vous conviez les poètes. Ce livre-là, Une pluie d'oiseaux, convie les poètes. Et les poètes, quand on y pense, ce sont des presque oubliés de la littérature. Depuis des dizaines d'années, la poésie est assez peu lue. Or, vous conviez des poètes contemporains, des poètes actuels. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, soudain, à la lecture de votre livre, fait sens, effectivement. Le poète, la poésie, c'est peut-être ce qui va nous permettre de faire lien avec notamment les oiseaux dans votre livre.
Oui, la poésie, quand elle n'est pas seule, c'est-à-dire qu'à elle toute seule, elle pourra pas faire grand-chose. Hein, mais tout l'enjeu, c'est, et là je pense à un autre grand disparu qui est Michel Deguy. La poésie n'est pas seule, c'était le titre de l'un de ses recueils, et tout son effort, et je crois que moi aussi, à ma mesure, j'essaye de faire ça, c'est de faire entrer la poésie dans le débat. Dans le débat, c'est-à-dire autour des questions qui nous mobilisent, qui nous animent, qui nous inquiètent, qui nous requièrent le plus, en l'occurrence ici la question écologique. Et donc, non pas d'un coup, avec l'espèce de vaisseau spatial que serait le poème, de s'écarter de la situation présente pour aller voir ailleurs, là où ce serait beau, là où on pourrait se réchauffer en s'éloignant du désastre, mais de faire intervenir le poème au même titre des réflexions scientifiques, que des enquêtes sociologiques ou anthropologiques, de faire intervenir le poème avec ses moyens, avec ses effets à lui, dans un espace commun où la poésie peut pas être toute seule. Et évidemment, ce qu'elle peut faire venir, c'est, disons, en tout cas, pour moi, qui suis attachée à une poésie de la langue, où ce qui se passe se passe par la langue, c'est-à-dire par cette chose qu'on a en commun et qu'on peut plus ou moins bien traiter. Donc ce que peut faire la poésie, c'est de soulever des moyens de compréhension, de participation au monde, qui tiennent à l'exercice de la parole. La conviction, c'est que parler, être un parlant, ça fait partie de vivre. Et que les poèmes nous accompagnent là-dedans, dans cet aspect-là du métier de vivre, en nous aidant, en nous portant un peu plus loin, en nous bousculant à cet égard. Et dans ce livre, disons, j'ai fait vivre une conviction que j'ai exposée ailleurs dans un petit texte qui est devenu un petit livre, hein, qui s'intitule « Parole et pollution ». Le sentiment, c'est qu'il appartient à nos responsabilités écologiques de faire la parole, que parler fait partie aussi d'une... vaste tâche écologique, parce qu'il y a des façons de parler du monde, de parler dans le monde, de se parler entre nous, qui polluent un peu plus ou au contraire prennent soin de nos formes de participation et de contribution à l'état du monde.
Oui, c'est cela aussi qui peut. Enfin, moi qui m'a surpris aussi en tant que lecteur, c'est de trouver véritablement autant d'exemples dans la poésie actuelle et la manière dont on voulait les convoquer. Parce que si vous conviez ces poètes, c'est parce que ce sont eux, et on apprend avec vous, que ce sont eux qui sont à même de faire langue pour les entités terrestres de ce parlement élargi à tous les vivants. C'est cet enjeu fort de. Une sorte de parlement. De tous les vivants, il y a ce problème de langue, de retranscription. Et or, on comprend que cet enjeu de langue, c'est le poète qui va le faire peut-être beaucoup plus que le romancier. Et vous ne conviez pas de romancier, vous conviez véritablement les poètes.
Oh, je suis sûre que les romanciers le font aussi, mais moi j'ai beaucoup moins le goût du roman que le goût du poème. Et du document. Alors, je pourrais dire deux choses quant à la présence de la poésie dans cette réflexion-là. La première, c'est que, en fait, le poème lyrique est né avec une véritable vocation écologique pendant le moment troubadour, qu'il est né derrière l'oiseau, si on peut dire. Le poète faisant comme l'oiseau, un peu moins bien que lui, un peu moins harmonieux, mais chantant comme l'oiseau la vie des choses naturelles, leur retour cyclique, le bien que ça peut nous faire et la part que l'on cherche à y prendre. C'est ça, la vocation écologique initiale du poème. Donc j'ai d'abord voulu insister là-dessus, le fait que le territoire de la poésie, c'est celui d'un d'une culture, d'une tradition qui essaye de faire quelque chose, où les hommes essayent de faire quelque chose de bien avec leur instrument singulier, qui est le langage, à l'intérieur du paysage. Donc depuis toujours, voilà, le poème est un discours écologique. Est un discours écologique où l'oiseau a une place capitale, la place première. Il représente en fait cet effort à la fois de louange et de participation. Et puis la deuxième chose, en effet, c'est que au long de l'histoire de la poésie, il y a eu d'autres moments où ce compagnonnage des poètes et des oiseaux a été particulièrement fort, intense, étroit. Et aujourd'hui fait partie de ces moments, mais le monde et le sentiment qu'on a du monde a beaucoup changé. Et donc ça n'est plus dans un rapport de joie, d'harmonie, en tout cas pas de façon prioritaire ou privilégiée. C'est plus dans ce type d'émotion que se joue le rendez-vous du poète avec l'oiseau. C'est au contraire dans la conscience d'un saccage du monde naturel. Et donc l'une des questions, c'était de savoir ce que ça devient le lyrisme, en fait, dans un monde comme celui-là, ce que ça peut encore faire, ce que ça peut encore dire, quel sens de la merveille ça peut encore soutenir, et quelle place à la détérioration, à la saleté, ça doit d'évidence, enfin quelle place ça doit ménager à ces autres affections-là. Donc ça, c'est une première affaire, c'est l'affaire, voilà, le poème comme ce morceau du pays humain où on rencontre d'emblée les oiseaux. Et puis l'autre chose, c'est ce que le poème pourrait faire à un ordre de questionnement assez récent, mais très vaste, et qui réchauffe et anime et passionne beaucoup, beaucoup de chercheurs aujourd'hui, qui est la question d'un élargissement, disons, des invités au grand banquet de la parole. Un élargissement au-delà des communautés humaines à des entités naturelles. Donc c'est une question qui a d'abord été posée dans le domaine du droit, en fait, depuis quelque temps résonne beaucoup à partir de leçons qui nous sont proposées, données même par d'autres cultures, d'autres points du monde où un fleuve ou une forêt ont acquis le statut de personne juridique. Et la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir, une réflexion étonnée, une réflexion pleine de doutes et patiente sur ce que ça veut dire parler quand on parle de cet élargissement du parlement des vivants. Et est-ce que ça vient si vite que ça pour nos cultures à nous qui justement sont si mal équipées pour entendre un fleuve dire son idée, pour le dire comme ça, ou un arbre déclarer sa pensée. Pour nos cultures à nous, on voit bien qu'il y a un désir d'animisme, qu'on voudrait bien faire comme ça, mais étant donné nos régimes de croyances, nos moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire élargir le parlement des vivants dans ce cas-là? Et ce que j'aime chez les poètes, c'est qu'ils ne se... Enfin, comment dire? Rien de mieux que les poètes pour résister à un usage hâtif de la langue. Rien de mieux que les poètes pour ne pas faire parler les choses de la nature, mais pour réfléchir au silence dans lequel ces choses nous tiennent, pour savoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être des dialogues auxquels on n'a pas droit, que c'est-à-dire pour réfléchir de façon pas du tout rudimentaire à ce que c'est véritablement que ce partage de la parole et ce partage du sens avec des choses et des gens, la rivière étant presque quelqu'un, les oiseaux étant des individus, avec des choses et des gens qui ne parlent pas, qui ne parlent pas quant à notre capacité d'écoute, qui parlent autrement, qui font signe autrement, qui parlent entre eux, mais qui ne nous disent rien à nous, qui ne nous adressent pas directement leur parole. Donc ça requiert beaucoup d'imagination, beaucoup de scrupules, cette réflexion-là. Et je trouve qu'il y a dans la poésie aujourd'hui une façon de, à la fois de tendre l'oreille et en même temps d'exiger beaucoup de notre rapport à la langue pour que justement on n'ait pas l'impression trop vite de savoir ce qu'un arbre nous dit.
Ce que vous nous dites, Marielle Massé, c'est au cœur de la problématique actuelle des sciences humaines et de cet embêtement du Parlement des choses proposé par Bruno Latour dès 1991. Et ça embête beaucoup de personnes, ce Parlement des choses, parce qu'on ne sait pas bien comment faire. On peut évoquer le Parlement de Loire, initié notamment par Camille de Toledo, aussi écrivain, et avec des capacités juridiques. On a beaucoup suivi cette histoire de Parlement de Loire, habitant Orléans, l'émission étant à Orléans, et donc la Loire a pris ce type d'importance aussi. Et j'ai l'impression que la nouveauté, grâce à votre livre, c'est de considérer nouvellement la parole poétique qui n'a pas été fait jusque-là pour cette question de parlement des choses, de rassembler les entités vivantes. Vous avez parlé d'un désir d'animisme, mais oui, mais comment le retranscrire? Et vous avez peut-être trouvé une possibilité de solution, justement, en convoquant la poésie. Et je me suis, en lisant votre livre, j'ai repensé à votre livre Style, critique de nos formes de vie, en 2016. Vous y énonciez ceci. La littérature est, au regard des sciences humaines et de la philosophie, plus et mieux qu'une réserve d'exemples. Et je trouve que c'est vraiment votre manière de convoquer les poètes, ce n'est pas pour servir d'exemple. Dans votre livre, la poésie n'est pas un exemple. Vous ne la convoquez pas de cette manière. Et votre phrase continue ainsi, je la reprends. La littérature est, au regard des sciences humaines et de la philosophie, plus et mieux qu'une réserve d'exemple. C'est une entrée en lutte contre toutes les façons, y compris savantes, d'être inattentif au comment. Et j'ai fortement repensé à cette phrase en lisant ce nouveau livre, Une pluie d'oiseaux.
Ah oui, merci, c'est exactement ça. Pour le dire d'un simple jeu de mots, peut-être, le poème, les poètes que je convoque, qui m'apprennent plein de choses, qui m'intéressent, et le genre de poésie que j'essaye de pratiquer moi aussi, même si c'est dans des pages de prose, ça consiste à affirmer qu'il est probable qu'on ne peut pas parler oiseaux, ou qu'on ne peut pas parler avec les oiseaux, en tout cas pas longtemps, mais que tout l'effort qu'on doit conduire, c'est de parler avec des oiseaux plein la vue, plein l'esprit, plein l'oreille. Et comme je le dis suite à un poète que j'aimais beaucoup, Ludovic Janvier, avec des oiseaux plein la voix. Donc il ne s'agit pas de feindre des énoncés d'oiseaux, il ne s'agit pas de prendre la parole, de bâtir le discours de l'oiseau. Il s'agit, nous, de tenir nos responsabilités de parlants avec nos phrases, avec nos mots, mais en ayant des oiseaux plein la voix.
Je voudrais qu'on termine cette interview par votre dernier paragraphe. celui qui conclut votre livre, et c'est moi qui vais vous le lire. Si c'était vous qui le lisiez, finalement, ça conviendrait pas bien. C'est mieux que ça passe peut-être par la voix d'un lecteur. En ce qui me concerne, cette petite enquête autour des oiseaux et de leur vulnérabilité nouvelle m'aura fait, entre autres, plonger plus profond dans la parole. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à trouver dans la vie volatile des raisons supplémentaires d'aimer les phrases, la grammaire, les langues, d'espérer beaucoup d'elles, presque tout, d'affirmer que parler pousse dans le monde et fait repousser la vie jusque sur les terrains les plus secs, sous une pluie d'oiseaux dans la parole. On termine par ces phrases ? Merci Marielle Massé.